Et c'est le retour de la main verte d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Très heureux de vous retrouver mon cher Eric. Bonjour Eric, bonjour Karine, bonjour,
bonjour
à tous.
Alain.
Alors pourquoi évoquer en cette rentrée la mémoire de Racine de Monville?
Pour parler d'un livre passionnant qui revient en détail sur la vie d'un personnage hors norme. François-Nicolas-Henri Racine de Monville est né en 1734. Il grandit auprès d'un grand-père fortuné, ce qui lui permet de vivre très confortablement et de vivre ses passions comme le sport, l'équitation, l'architecture et surtout le jardin. Racine de Monville se distingue par son élégance et son excellente éducation. Et à ce titre, il reçoit chez lui le gratin de l'aristocratie. Et quand je dis gratin, écoutez, Jeanne Bécu, la future comtesse du Barry, Thomas Jefferson, futur président américain, Joseph II, l'empereur d'Autriche, Gustave III de Suède ou encore la reine Marie-Antoinette.
Racine de Monville, c'est donc le titre de l'ouvrage et il revient longuement sur le désert de Ré.
Et oui, le grand œuvre de cet homme mort en 1797 est sans conteste ce désert, un jardin de type anglo-chinois, autrefois planté d'arbres rares et toujours aujourd'hui agrémenté de curieuses constructions comme une pyramide glaciaire, une colonne détruite, une tente tartare ou encore une église gothique en ruine, une romane bien évidemment, et bien d'autres fabriques ensemble. Encore, il est toujours possible de visiter le jardin, il est situé sur la commune de Chambourcy dans les Yvelines, mais je recommande vivement la lecture de cet ouvrage pour bien comprendre la philosophie des lieux et mieux connaître son concepteur. Racine de Monville est un ouvrage passionnant, de 400 pages, aussi soigné que documenté. Il est signé Michel Dache et Pierre-Émile Renard, deux passionnés qui ont consacré alors des années à la rédaction de ce livre. Il est publié à compte d'auteur. Toutes les coordonnées sont sur le site de la matinale. Et j'en profite pour rappeler que RET s'écrit R-E-T-Z pour ceux qui seraient tentés de chercher sur Internet.
Vous avez raison.
Après ce préambule, vos conseils, vos réponses aux auditrices et auditeurs de France Inter, on commence avec Pascal, c'est une femme. Elle a planté, Pascal, un petit acer rouge à l'abri du soleil. Je l'arrose très régulièrement, dit-elle. Il semble avoir des feuilles et des petites branches qui s'assèchent et qui jaunissent. A-t-il trop ou pas assez bu ?
Les noms ont un sens. Vous vous appelez Éric Delvaux, vous ne vous appelez pas Alain Baraton. L'érable rouge, ce n'est pas un érable du Japon, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Ce n'est pas parce qu'une plante produit à l'automne des feuilles rouges que c'est un érable rouge. L'érable jour, acer rubrum, est un arbre de plein soleil. Il faut donc pas le mettre à l'ombre, pas dans la terre de bruyère, en pleine terre. Il peut atteindre de très belles hauteurs, donc il faut du soleil pour l'érable rouge.
À propos de l'eau, ça n'a rien à voir, donc on ne sait pas s'il a trop bu ou pas assez bu.
Alors, il a certainement trop bu. On va être envahi de questions de plantes qui constatent que leurs végétaux dépérissent à cause des pluies torrentielles, mais nous aurons le temps vraiment d'y revenir.
D'accord. Nadia et son rosier, un rosier qui a des feuilles toutes fanées, dit Nadia. Les fleurs en boutons se dessèchent. La proximité d'un pêcher qui a été malade de la cloche. Vous nous direz ce que ça veut dire. Est-ce que ce péché malade, il serait pour quelque chose dans la contamination éventuelle de cette plante, ce rosier ?
La cloque du péché, c'est une maladie cryptogamique qui fait enrouler les feuilles, qui les fait ensuite sécher et chuter. Et cette maladie ne tue pas la plante, mais l'affaiblit considérablement. Il se dit que mettre dans un péché atteint de la cloque des fils avec des coquilles d'œufs éloignerait le mal. Honnêtement, j'ai quelques doutes, oui. Là, nous avons affaire à un rosier qui est de la même famille d'ailleurs que le pêcher rosacé. Il pourrait donc avoir la même maladie, je doute. Mais il a tellement plu, je vais pas arrêter de vous parler de pluie pendant un mois, je vous le dis tout de suite. Il a tellement plu qu'on a peut-être affaire à du mildiou, peut-être affaire à de l'oïdium. On a certainement affaire à une maladie cryptogamique contre laquelle il n'y a rien à faire. Je vous rappelle que les attaques de champignons peuvent éventuellement se traiter en préventif, rarement en curatif.
Yves, à propos d'une tombe, qui est ornée d'un cyprès et ses aiguilles acidifient la terre, dit Yves. On y a planté un ostéopernum, des cactés, des iris, un laurier rose, des chrysanthèmes. Quelle autre plante pourrait-on encore installer sur cette tombe, près d'un cyprès ?
Ce que l'on veut, quand on est capable de faire mélanger un ostéopernum qui ressemble à une marguerite, c'est une très belle plante, j'aime beaucoup. Une marguerite, on va dire, un peu moderne, avec des cactés, c'est vraiment qu'il y a, au niveau de la terre, j'ai même du mal à concevoir qu'on puisse mettre des cactés sur une tombe avec des lauriers roses, par exemple. Donc, les végétaux, s'adapte à toutes les terres, il n'y a aucun souci. Mais ça m'a l'air gigantesque, l'ornementation de cette tombe.
Mais je crois que le cyprès est à côté de la tombe, pas forcément dessus.
Voilà, c'est quand même assez étonnant. Enfin, qu'on revienne un jour sur le cyprès et expliquer peut-être longuement...
Pourquoi est-ce que ça acidifie la terre ?
Et pourquoi il orne les tombes.
Jérôme a un érable à feuilles de frêne qui est très joli, mais qui chaque année a des feuilles qui pâlissent, savez-vous ? D'où ça peut provenir?
Oui, de la pluie, ça va vous étonner.
Eh oui, on a pas fini d'en parler, effectivement.
Alors, je vais vous expliquer où est le problème de la pluie. Déjà, l'érable à feuilles de frêne, c'est l'érable Negundo. C'est l'un des plus beaux érables qui soit. Les pluies torrentielles que nous avons reçues au printemps ont lessivé la terre. Un arbre produit des racines qui vont capter dans le sol, assimiler les oligo-éléments, le calcium, le fer, le magnésium et quantité d'autres substances nutritives. Les pluies torrentielles ne cessent d'envoyer par le fond tous ces éléments. Ça lessive la terre, la plante n'a plus de nourriture, elle développe donc des carences. C'est pas éternel, c'est provisoire. Mais ne vous étonnez pas si cette année, il y a des champignons sur les feuilles et quantité de plantes qui développent des carences. Le sol est lessivé et c'est logique. Prenez un bol, mettez du café dedans et mettez beaucoup, beaucoup d'eau. Vous verrez que votre café, au bout d'un moment, finira par disparaître. Il n'y aura plus que de l'eau. C'est ce qui s'est passé dans la terre.
On va terminer avec une balade pour ce week-end.
Oui, d'aller voir le Grand Trianon. Je connais bien, vous allez dire c'est mon domaine. Mais Elena Segundo, jardinière talentueuse, a créé un parterre vert. C'est un parterre...
Où ça? Au château de Versailles? Oui, dans le parc du château de
dans
Versailles.
Dans le parc, au Grand Trianon. C'est un parterre uniquement de vert, il n'y a pas une fleur de couleur, même les fleurs sont vertes. C'est un parterre étonnant, il est beau, il est moderne, il est contemporain, il est doux, et on a envie de s'allonger dessus. C'est une petite merveille. Et puis après avoir profité bien sûr de ce parterre vert, œuvre, je rappelle, d'Elena Segundo, eh ben, si on allait dans le parc de Trianon, contempler l'exposition Lalanne, ces œuvres de Lalanne qui sont exposées un peu partout jusqu'au Hameau de la Reine, donc Versailles, ce week-end, à ne pas rater.
Alain Baraton dans un exercice d'autopromo. Merci Alain, merci. À demain.
À demain.